poule aux vanilles.
Je pense.
J'aime bien la framboise.
Ouais, je pense que je vais prendre deux boules vanille.
Deux boules vanille.
Je sais pas. Deux boules vanille.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Yann avec vous pour une nouvelle émission de Boule Vanille, votre émission de l'été sur Canal B qui vous est proposée tour à tour par Iris, par Louise, Lucie, Morgane, Quentin, Antoine ou moi-même. Aujourd'hui, on retrouvera le quatrième et dernier épisode des métiers invisibles du spectacle vivant, une série proposée par Soisy Global qui aujourd'hui rencontre Rosaine Honoré qui a été costumière à la Comédie Française, qui est passée par la mode et est revenue mais au cinéma cette fois. Elle nous dira tout sur sa carrière d'ici une trentaine de minutes puisqu'on partira aujourd'hui du côté du festival Hop 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 à Orléans, 9e édition d'un festival à la programmation exigeante et défricheuse. C'est les 13 et 14 septembre cette année et la Ferrarock y sera en direct pour un plateau radio. On terminera l'émission avec une rediffusion d'un morceau de choix. Cette série est concoctée dès l'année 2023. Première diffusion en été 2023, justement dans De Boule Vanille. Et aujourd'hui, ce sera l'épisode numéro 4 dans lequel Pierre nous parlait d'un morceau, d'un disque qui l'avait fait chavirer. Il nous parlera d'un titre de Television en live. Mais pour débuter l'émission donc, eh bien partons à Orléans les 13 et 14 septembre prochain pour le festival Hop 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 qui se déroule dans plein de lieux de la ville d'Orléans. Depuis 2016, première édition du festival Hop Hop Hop, eh bien ont pu se succéder par exemple le groupe Omni et puis aussi les excellents Liminianas et puis Jonathan Bree et puis The Guru Guru. Je ne vous fais pas toute la liste, hein, vous la retrouverez cette liste des artistes passés sur hop hop hop.fr. On va se balader dans une partie de la programmation, trois artistes par soir. Avec le 13 septembre, on écoutera Opaque, Gablé qu'on connaît un petit peu et puis UTO, superbe duo électronique français. On débute la balade à Orléans avec Opaque, OPAC, peut-être c'est ça que ça veut dire exactement. Ils nous viennent de Tours, en bord de Loire. Allez faire un tour d'ailleurs sur le site hopopop.fr pour avoir à chaque fois une petite description de la ville de provenance des groupes invités. Ils sont quatre, les Opac. C'est un all-star band tourangeau puisqu'on retrouve dans ses rangs des membres de Stuffed Foxes par exemple, ou de Common Insight, de Mosai. Ils ont eu envie de mêler folk, mélancolie, musique psychédélique et rêveuse. Tout ça est très très bien amené et agencé. On les retrouvera le vendredi 13 septembre, le groupe Opac, du côté de la Seine Institut d'Orléans. Comptez sur la Ferrarock pour vous faire vivre le festival de l'intérieur, puisqu'un plateau radio y sera organisé. Je vous rappelle que Hop 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 a lieu à Orléans les 13 et 14 septembre prochains. On écoute Opac avec ce titre Emerald Green Dress. She's standing here in her emerald green dress. Have you ever been blessed by the nameless sea? Waves bending your face. Yeah, the tears are.
must have changed, 'cause nothing it is right. The measures they are quite precise, and the light it often comes in useful at night.
There's a road in my head. Don't ever touch, or I'll be dead.
Gablet, qu'on diffuse sur Canal B et sur les radios Ferrarock en général depuis le tout début. Là, c'était extrait de leur dernier album en date, Pick the Week, sorti l'année dernière sur le label Figure Libre, un label très proche du festival Hop 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 Hop, un label de Vendôme, mais pourtant on retrouve souvent leur production du côté d'Orléans pour le festival Hop 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 Hop, festival de l'Astrolabe, salle d'Orléans, et vous retrouverez les Gablés sur la scène Micro Campo pour un mélange pop folktronica, plus électronique que par le passé quand même. Leur dernier album, ce sera le 13 septembre donc à Orléans. On poursuit avec cette fois un duo un peu plus jeune, on les connaît depuis moins longtemps que le groupe Gablé. Ils sont très talentueux, le duo UTO, signé sur le label Infiné. Eux viennent du Loiret, précisé par le festival comme la terre des Capétiens. Voilà. Ils seront le 13 septembre à la scène Théâtre en fin de soirée après Brahma, Catégorique et avant Allo Ouala. Vous les entendrez mélanger, mais vraiment, ils le font dans tous leurs morceaux, des titres qui passent de la pop à la jungle en allant du côté de l'ambiance, de la musique psychédélique, de la house et du breakbeat. Là, vous entendrez évidemment leur hommage à la house du début des années 1990, fin 1980, du côté de l'Angleterre, avec des gens comme Cold Cut par exemple, ou Mars. Eh bien, c'est un peu une des influences, mais elles sont multiples, du duo UTO qu'on écoute immédiatement avec ce titre Napkin. Il joue à Orléans au festival Hop 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 le 13 septembre. et le titre Napkin. Retrouvez-les du côté de la scène théâtre d'Orléans au festival Hop 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 numéro 9. Ça a lieu les 13 et 14 septembre prochains. On se dirige vers la deuxième journée du festival. Le samedi 14 septembre, vous pourrez découvrir un des chouchous des radios de la Ferra Rock, hein, le groupe Geysir, et ses ambiances électroniques planantes qui doivent beaucoup à la musique d'illustration sonore, et on va les écouter, Geysir. Ils viennent de Vendôme, ils sont signés comme par hasard sur le label Figure Libre Records. Leur nouvel album Tanzwelle sortira à la rentrée et sera un disque coup de cœur Ferra Rock. Tout se mélange très bien. Geysir, c'est Marie-Céline Le Guy et Lionel Laquerrière. On les entend maintenant avec ce morceau Fresque, extrait de l'album à venir à la rentrée. Ils seront sur la scène Institut d'Orléans au festival Hop 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 le samedi 14 septembre avec aussi Nour et puis une musicienne américaine à découvrir absolument qu'on écoutera tout à l'heure. Mais pour l'instant, Geysir. de Boule Vanille. Je vous propose cet été de découvrir quelques festivals plus ou moins connus. Vous connaissez déjà la Route du Rock, évidemment, ou le festival Motocultor. Peut-être vous découvrez dans de Boule Vanille les festivals chez Hubert, ou bien hop, c'est hors de la région quand même, c'est à Orléans. Ça se déroulera les 13 et 14 septembre prochains. Et puis, on en écoutait un instant un extrait de la programmation, le duo Geysir, à voir le samedi 14 septembre, tout comme celle qu'on va écouter dans un instant, l'américaine Anastasia Coop, qui nous propose Seule, eh bien, une musique folk assez enfantine, ça vous allez l'entendre dans un instant. Le morceau que je vous propose pour évoquer le passage d'Anastasia Coop à la scène Institut d'Orléans le samedi 14 septembre me fait pas mal penser à ce que pouvait produire la Langley School Music Project, ce projet musical d'un prof de musique canadien qui, au début des années 1970, eh bien, faisait enregistrer à ses élèves des titres de David Bowie, des Beach Boys, et les transformait en symphonie à deux doigts de se casser la figure, mais qui était absolument touchante par la fragilité justement des versions. Et bien là, elle est seule, Anastasia Coop, il n'y a pas toute une chorale avec elle, et pourtant on s'y croirait dans une chorale enfantine. Voici le titre He is on his way home, we don't live together, par donc Anastasia Coop, à voir donc le 14 septembre à Orléans pour le festival Hop. Les Australiennes de OVG à l'instant, elles viennent de Melbourne et on les connaît pour un mélange indie-rock plutôt provoquant avec aussi quelques envies de danser. Elles avaient fait aussi remixer des morceaux par notamment les Stifford Mods, ce titre qu'on entendait à l'instant. Eh bien, c'était le tubesque, vraiment c'est un tube, Nothing Really Changes, justement remixé par Stifford Mods. OVG, vous les retrouverez si vous allez faire un tour du côté d'Orléans pour le festival Hop 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 numéro 9, c'est les 13 et 14 septembre prochains. Retrouvez toute la programmation sur le site du festival hophophophop.fr et puis retrouvez l'Affaire à Rock pour des émissions en direct du festival qui seront diffusées sur Canal B. À suivre l'épisode 4 des métiers invisibles du spectacle vivant. Aujourd'hui, une costumière rencontrée par Sozy Glebay. Qu'ils et elles soient en charge des costumes, de la lumière, des décors ou encore de la régie générale, on ne connaît pas leur nom, on les voit jamais sur le plateau d'un théâtre quand le rideau est levé. Pourtant, au TNB, à Rennes, au Festival d'Avignon ou ailleurs, sans leur travail, rien ne pourrait avoir lieu. En tout cas, certainement pas de manière aussi riche, subtile et aussi harmonieuse. Cet été, dans deux boulevanies, Sozy Glebay rencontre des hommes et des femmes qui exercent des métiers invisibles du spectacle vivant et qui s'expriment sur leur carrière, ses évolutions, et puis nous parle de leur bonheur ou de souvenirs moins joyeux. Dans ce quatrième et dernier épisode de la série Les métiers invisibles du spectacle vivant, nous rencontrons aujourd'hui Rosaine Honoré, costumière qui a travaillé 15 ans à la Comédie Française avant de poursuivre sa carrière d'une autre manière. Rosaine Honoré revient sur ses débuts dans le métier.
Tout ça, ça a démarré de bonheur. En fait, je faisais beaucoup de danse étant enfant, puis à l'adolescence, j'ai intégré une compagnie de danse contemporaine où on faisait tout... On faisait un peu tout nous-mêmes, les décors, les costumes, tout ça. Et je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus à l'aise en coulisses que sur le plateau. Mmh. Et du coup, c'est comme ça que c'est venu, les costumes, l'envie de faire du spectacle. Bon, on m'avait appris à coudre de bonheur dans ma famille. Les femmes savaient coudre. Je savais me servir d'une machine à coudre au collège. Donc, je faisais déjà un peu mes vêtements comme ça. Je bricolais un peu. Et puis, au moment de choisir son parcours en fin de troisième, j'ai dit à mes parents, ben moi, je veux être costumière, en fait. Je voudrais être costumière. Bon, mes parents étant profs, tous les deux, ils m'ont dit, tu passeras d'abord ton bac et puis après, on en reparlera. Mais comme je suis un peu têtue, j'ai dit, OK, je vais passer mon bac, mais je vais choisir un bac technique. Donc, j'ai choisi une section qui s'appelait vêtements, création, mesure, à Tours. Il n'y en avait pas du tout en Bretagne à l'époque. Et voilà, je suis partie faire mon lycée à Tours pour apprendre à coudre dans un premier temps. Je m'étais renseignée parce que j'avais ma petite idée et je savais qu'il y avait une école de spectacle qui préparait au métier de costumier qui s'appelle l'ENSAT. À l'époque, c'était situé à la rue Blanche à Paris et qui préparait un BTS de costumier. Donc, j'ai d'abord passé un bac technique vêtements, création, mesure. Et ensuite, j'ai passé ce concours pour intégrer une école de technicien de théâtre. À l'époque, c'était un BTS, donc de costumier de spectacle. Donc voilà, j'ai fait ça pendant 2 ans à Paris. Au lycée, on m'a appris à coudre la technique classique. Et puis en BTS, on m'a appris à chercher et à faire du vêtement historique, à faire des coupes historiques. On se faisait plein de contacts, quoi, parce que
dans le métier.
Bah, les profs, par exemple, le prof qu'on avait en costume, lui, il travaillait pour le Lido. Donc moi, mes premières fiches de paye, c'est le Lido. Je faisais des strings pour le Lido pendant les vacances scolaires. Et puis, voilà, à l'époque, donc je vous parle de ça, moi, je suis sortie en 85. Sur Paris, il y avait encore beaucoup d'ateliers de costumes qui faisaient des costumes... pour le musical, pour le théâtre.
Les séries télé.
Oui, mais on n'était pas trop dans ce...
Pas la télé.
On n'était pas trop dans cette mouvance-là. Voilà, nous, on était plutôt théâtre, spectacle vivant, opéra, ballet. Donc, et puis dans cette école, on apprenait à faire du costume historique, des tutus avec la technique de l'opéra, voilà. Et donc en sortant de l'école, on allait tous bosser dans des ateliers de costumes, voilà, on se faisait embaucher et il y avait du travail.
Le recrutement n'était pas difficile à l'époque ?
On n'était pas très nombreux comme costumiers parce que cette école de l'ENSAT, c'était sur concours et il prenait 10 élèves par classe. Donc on était 10 costumiers à sortir par an à l'époque. Donc on trouvait tous du travail. Et d'ailleurs, ma promo, on est tous toujours dans le milieu. Maintenant, après, ça s'est développé, on va dire. Il y a de plus en plus d'écoles, de formations, de costumiers. Du coup, il y a beaucoup de monde sur le marché et... Voilà, peut-être que c'est plus difficile de trouver du travail, mais à l'époque, tout le monde travaillait.
Ou moins bien payé.
Ou moins bien payé aussi, ouais.
Dans la mode, il y a des stylistes et puis il y a les petites mains. Mm. Et vous, c'était pas ça, vous faisiez les deux ?
On nous apprend à faire le modèle, couper le vêtement et puis à le monter. On apprend à coudre aussi. C'est vrai que dans la mode, c'est plus morcelé. Il y a celui qui fait le croquis.
Le dessin. Hein.
Il y a celui qui fait le modèle, le modéliste. Et il y a celui qui fait le montage, le prototypiste ou les premières mains en haute couture. Nous, les costumiers, on sait tout faire du moment où on coupe le vêtement, on fait le patron et on sait le monter. Après, c'est un autre métier, celui qui est créateur de costumes. Ça, c'est un autre... Il y en a dans ma formation qui ont bifurqué vers la création de costumes. Et d'autres qui sont plus techniciens.
Et vous, vous avez choisi quoi ?
Ah, moi, je suis très technicien. Ouais. Je ne suis pas créative. Je suis pas... j'ai besoin de... C'est-à-dire... qu'on me montre des documents, tout ça, puis après je démarre et après j'y vais. Mais je ne suis pas créatrice de but en blanc. J'ai besoin qu'on me... Oui, mais y a des gens qui aiment beaucoup la création. Moi, j'aime beaucoup... moi, ce qui me plaît le plus, c'est la coupe, c'est élaborer le vêtement, le construire. Mmh. Moins le monde... Alors après... Quand on évolue dans le métier, bien sûr, on accède à des postes plus élevés. Et c'est vrai que moi, maintenant, je suis toujours chef d'atelier, en fait. Je ne fais plus beaucoup de couture, proprement dit. Je fais le modèle du costume et après, je distribue le travail. Je fais le modèle, les essayages sur les comédiens. Et après, je distribue le travail pour le montage parce que c'est pas les mêmes rémunérations, chef d'atelier ou juste couturière.
Oui, alors dites-moi, donc vous travaillez en lien avec le metteur en scène, avec les comédiens.
C'est plus le créateur de costumes, qui correspondrait au styliste si vous voulez, dans la mode. C'est plus le créateur de costumes qui va être en lien avec le metteur en scène ou avec le réalisateur ou comme ça. Après, nous, moi, chef d'atelier, je suis en lien avec le créateur de costumes qui va m'expliquer son parti pris, qui va me faire des maquettes ou me montrer de la documentation. Et à partir de là, je vais lui proposer des choses. Et je suis en lien avec le comédien, bien sûr, au moment des essayages.
Oui.
Et là, c'est vrai que c'est quelque chose... C'est pour ça que j'aime beaucoup ce moment-là, moi, l'essayage, parce que c'est là que le vêtement se construit vraiment. Le costume se construit vraiment parce que le comédien, il se voit dans son costume et il se l'approprie et il y apporte des choses.
Et il faut aussi qu'il puisse être à l'aise pour bouger,
ah oui.
Par exemple.
Primordial.
Enfin, des choses
primordial. Il y a eu des générations de costumiers qui étaient peut-être un peu des intégristes de l'historique et qui voulaient que le costume soit absolument comme à l'historique. Sauf que le corps humain, il a évolué. Et moi, une de mes priorités, c'est que l'acteur, il soit à l'aise dans son costume, parce que sinon, il ne va pas bien le...
Oui, il va travailler avec.
Il va travailler avec. Ouais. Et moi, je me suis plutôt spécialisée dans le costume masculin. Et du coup, par exemple, à la comédie, souvent, ils avaient des duels, des combats. Donc, ils sont en pourpoint, OK, mais il faut qu'ils puissent bien bouger.
Ouais. Comment trouvez-vous les tissus?
Ah, ça, c'est vraiment... Maintenant, c'est vraiment un problème. Ça devient compliqué de trouver des tissus pour faire les formes que l'on fait, parce que les tissus dans la mode doivent être de plus en plus légers, et nous, on a besoin de tissus plus consistants pour faire nos costumes. Donc, ça demande d'adapter de plus en plus au niveau des entoilages. Les entoilages, c'est ce qu'on met à l'intérieur pour rendre un costume, pour que ça se tienne. Et c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué. Les matières synthétiques, tout ça, c'est pas très facile pour nous en costume. Maintenant, par exemple, dans presque tous les lainages, il y a un peu de stretch pour le confort. Et nous, en costume, ça ne nous sert pas à grand-chose, en fait.
Toutes ces nouvelles matières un peu élastiques, en fait, font qu'on a moins besoin de réfléchir dans la coupe. Mais en fait, ça se voit, non, que c'est mal taillé.
Oui. Ben, c'est-à-dire qu'il y a des formes, par exemple un veston 1930 qui est très galbé, vous aurez du mal à le faire dans un tissu, dans un lainage de maintenant, léger, avec un peu de stretch dedans. Vous n'arriverez pas à faire cette forme très galbée, parce qu'à l'époque, il y avait du travail au fer, on formait la matière avec la chaleur. Maintenant, on ne peut plus faire ça avec les tissus contemporains.
C'est incroyable, ça, quand même, non, qu'il n'y ait pas encore un endroit, quelque part en France, où on crée ce genre de tissu.
Ah bah, on en trouve un peu. Hein. On arrive quand même à se fournir. En Angleterre, il y a encore des belles maisons de lainage. En Italie, oui, voilà, voilà. Mais c'est vrai que quand on a un tweed écossais dans les mains, il a un poids qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut trouver dans le commerce autrement.
Dans la série Les métiers invisibles du spectacle vivant, épisode 4, aujourd'hui sur Canal B, c'est Rosaine Honoré, costumière, qui répond aux questions de Soisig Le Bail.
Est-ce que vous réutilisez les costumes? Est-ce que vous les réadaptez quelquefois à d'autres comédiens? Ou bien est-ce qu'il y a un immense magasin quelque part où on garde tous les costumes?
Par exemple, à la comédie, on fabriquait pour chaque production... On fabriquait les costumes, mais comme les comédiens peuvent changer aussi pendant une production, un tel est malade, un tel est distribué sur un autre spectacle. Donc
après 10 kilos.
Aussi. Donc il faut réadapter. Alors soit on peut faire des retouches sur le costume, et c'est vrai que les costumiers, on fait toujours attention à ce que les costumes soient ajustables, enfin qu'on puisse faire des retouches. On coupe pas tout à 1 cm comme on fait dans l'industrie. On laisse de la matière à l'intérieur pour pouvoir redonner ou... Donc on réadapte, oui. Et puis pour répondre à votre question, il y a des énormes stocks de costumes. Alors par exemple à la comédie, il y a un stock de costumes dans lequel on peut aller piocher pour habiller la figuration ou comme ça. Et puis sinon dans les productions de cinéma, ben après c'est revendu à des loueurs de costumes. Et là il y a des espaces immenses où il y a plein de costumes qu'on va réutiliser pour de la figuration ou des fois des productions qui ont moins de moyens, où ce sera tout en location. Moi, je connais mieux la comédie française, puisque c'est là que j'ai travaillé. Régulièrement, on faisait... Il y avait des ventes de costumes, oui, parce que sinon, on ne sait plus où mettre les choses. Ouais. Alors, ça peut servir au conservatoire, à des jeunes compagnies. Ouais. Il y a aussi des costumes, quand ils sont assez prestigieux, qu'on donne au musée du spectacle à Moulins. Il y a des costumes qui sont partis comme ça. Notamment, je me souviens de costumes qu'on avait fait avec Christian Lacroix qui sont à Moulins exposés.
Oui, un beau musée à Moulins.
Oui, très très beau. Et puis avec un département de conservation du costume qui est magnifique, quoi. C'est vraiment de la restauration, de la conservation muséale, quoi.
Qu'est-ce que vous avez préféré faire à la Comédie Française? Quelle a été votre heure de gloire, on va dire, ou bien un grand plaisir?
J'ai beaucoup aimé travailler sur Cyrano, justement avec Christian Lacroix. J'ai eu la chance de travailler avec lui 3 fois, et c'est vraiment un monsieur que j'adore, avec qui vous apporte plein de documentation, et puis à partir de là, on lui propose des choses, et ça se construit au fur et à mesure, c'est jamais figé, c'est toujours en évolution. Et puis, ce que j'appréciais énormément à la comédie, c'était la troupe. Le fait d'avoir une troupe de permanents, de gens qu'on connaît, qu'on observe, qu'on voit bouger. Et du coup, on arrive de mieux en mieux à les habiller, en fait, parce qu'on connaît leur corps.
Rosaine Honoré explique maintenant pourquoi elle a décidé de quitter la Comédie Française.
Au bout d'un moment, quand ça fait longtemps qu'on est dans une maison, forcément, il y a, même si ça change souvent, parce que c'est toujours, il y avait quand même 5 à 6 productions par an, avec à chaque fois des créateurs différents. Au bout d'un moment, il y a quand même une sorte de routine qui s'instaure. Et j'avais une quarantaine d'années, je me suis dit, si je pars pas maintenant, je vais faire vraiment toute ma carrière à la comédie. Et j'aurais pas vu autre chose. Et j'avais envie d'aller voir un peu autre chose. Donc, j'ai quitté la comédie. J'avais envie d'aller voir dans la mode un peu comment que ça se passait. Donc, je suis partie dans la mode et je suis devenue modéliste. Donc, ceux qui font les patrons. Et j'ai travaillé comme ça chez Sonia Riquel, puis chez Jean-Paul Gaultier. Donc, de 2008 à 2017, ouais, j'ai travaillé dans la mode. J'avais envie de voir comment que ça se passait.
Et alors, c'est comment ?
Eh bien, je suis revenue au costume. c'est intéressant, c'est très intéressant techniquement, parce que c'est vraiment très pointu. Mais c'est la finalité qui au final ne me convenait pas. Il n'y avait pas un spectacle au bout de ça. Il y avait juste un défilé qui dure 20 minutes et c'est fini.
Et il y avait des séries aussi. C'était des vêtements produits en série.
Non, chez Sonia Riquel, c'était prêt-à-porter de luxe. Donc nous, on travaillait pour le défilé. Et après, oui, ça partait en production. Mais nous, à l'atelier, on faisait que le défilé. Et chez Jean-Paul Gaultier, c'est haute couture. Donc c'est des pièces uniques qu'on reproduit pour les clientes après. Et ça, par contre, ça, j'aimais bien travailler pour les clientes parce que tout d'un coup, on s'adresse à quelqu'un et c'est pas juste un mannequin.
Vous habillez, quoi.
Quelqu'un. On habille quelqu'un pour une occasion et il y a de l'humanité dedans. Alors que sinon, c'est très déshumanisé, je trouve.
Puis, après un moment passé à travailler dans la mode, Rosaine Honoré revient au costume, mais pour le cinéma cette fois.
Mes camarades d'école travaillent toujours dans le spectacle, notamment un qui est devenu créateur de costumes et qui travaille lui plutôt pour le cinéma. Donc avec lui j'ai fait Mademoiselle de Jonquière et voilà, maintenant on travaille régulièrement ensemble, on a fait Tirailleurs, on a fait Les couleurs de l'incendie, voilà. Donc du coup maintenant je travaille plutôt pour le cinéma, ouais.
Vous m'avez dit tout à l'heure, avant que j'allume le micro, que vous aimiez mieux les costumes, la structure, plutôt que le flou et les jolies robes évanescentes.
Oui, j'aime bien quand c'est plus architecturé, en fait. Donc, par exemple, en vêtements féminins, j'aime bien faire des corsets, des corps à baleine, des choses qui se tiennent, ou des vestes tailleurs pour femmes. Mais je travaille plutôt pour le masculin. J'aime bien faire des vêtements masculins, ouais. Dans le costume historique, ouais. C'est complètement différent parce que les pourpoints, c'était très travaillé. Les habits 18e, pareil, c'est très chatoyant. On a des belles matières, on a des galons.
Là aussi, pour trouver le matériau, c'est compliqué. Je sais qu'en plus de Saint-Ouen, il y a des boutiques.
Hein. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, on récupère beaucoup de matériel comme ça, de matériel ancien. Donc, faut chiner, quoi.
C'est vous qui le faites ?
Non, ça, c'est... souvent, c'est le créateur de costumes ou son assistant qui font ça. Ça m'est arrivé de le faire sur certains spectacles, mais en général, maintenant, je suis plutôt chef d'atelier, donc je me concentre sur la coupe des vêtements, les essayages...
Dans sa carrière professionnelle, Rosaine Honoré ne semble pas avoir connu de drame.
J'ai pas de souvenirs de catastrophe. J'ai des souvenirs d'être très très à la bourre des fois, de travailler des nuits parce que voilà, il fallait que ça se termine. Mais c'est ça qui est assez étonnant d'ailleurs dans le costume, dans le vêtement, c'est que finalement il y a toujours une solution. On arrive toujours à trouver une solution, c'est jamais foutu, il y a toujours moyen de retomber sur ses pattes.
C'est un peu du bricolage par moment ?
Oui, ça peut, oui, par moment, mais il faut, par exemple, je n'aime pas qu'on dise « Ah, les costumes, c'est comme des déguisements », pas du tout. Les costumes, par exemple à la comédie, ils sont très très bien finis. Ils sont doublés parce qu'il faut qu'ils tiennent longtemps. Donc c'est aussi bien fini qu'un vêtement qu'on va porter.
Merci à Rosane Honoré, costumière. Nous l'entendions dans le quatrième et dernier épisode de la série Les métiers invisibles du spectacle vivant proposé par Soisy Glebay tout cet été dans l'émission De Boule Vanille sur Canal B. Vous pouvez bien sûr écouter les trois autres épisodes sur canalb.fr. La musique d'illustration de cette série, c'était le titre Vengeance Tropicale par le duo Bolbec. À suivre, morceau de choix numéro 4, rediffusion de l'épisode du 28 juillet 2023 de cette série conçue et réalisée par Ronan Chaplin.
Morceau de
bravoure.
Hacher le morceau. Recoller les morceaux.
Les morceaux, le morceau.
Manger le morceau.
Morceau.
Le morceau.
Porter le morceau.
Morceau.
Choisi.
Morceau choisi.
Morceau de choix.
De choix.
De choix.
Morceau de choix. Choix.
Alors, le morceau choisi s'intitule, avec mon superbe anglais, Knocking on Heaven's Door, par le groupe Television. C'est une reprise de Bob Dylan. Et c'est un live qui a été enregistré en 1978. Un article qui ramène à mon début d'année étudiante à Rennes, un article des Inrecuptibles. Ça devait être le numéro 1, numéro 2 ou numéro 3 des Inrecuptibles. Je me rappelle plus la couverture, je crois que c'était Lloyd Cole, je crois, The Commotion, un vieux groupe déjà. Et voilà, j'ai flashé sur la revue, et dans la revue, il y avait une chronique qui parlait de cet album The Blow Up de Television, et alors que je connaissais pas le groupe. Je crois que l'écriture, la critique de l'article l'album m'avait plu, et je suis allé acheter le vinyle, et je suis tombé sur ce morceau. Que je connaissais indirectement, puisque c'est donc une reprise de Bob Dylan, et cette reprise la chanson originale de Bob Dylan, elle paraît sur l'album Pat Garrett et Billy the Kid. Et là on va revenir à ma grande passion, c'est le western. C'est pas que j'ai jamais voulu être un cow-boy, mais j'adore le western, et j'adore particulièrement ce western de Sam Peckinpah, et dans lequel notamment Bob Dylan joue un rôle d'ailleurs assez important. C'est pas un figurant, il a un rôle assez important, et c'est donc lui qui a fait aussi la version originale, la bande originale du film, donc Pat Garrett et Billy the Kid de Sam Peckinpah. Ça raconte l'histoire d'un shérif qui peut plus, qui ne veut plus porter son étoile. Hein, c'est l'introduction de la chanson qui commence ainsi. J'ai réussi à faire le lien entre cette chanson que finalement je connaissais et puis ce groupe Television qui fait cette reprise. Oh, Alors c'est une chanson qui a donné lieu à plusieurs reprises, notamment une de Guns N' Roses, mais qui est beaucoup moins intéressante et beaucoup moins belle, je trouve, que celle-ci. Alors le live, je pense que les puristes diront que le son n'est pas bon, que la batterie est beaucoup trop en avant, que la voix est pas assez forte, mais je trouve que Tom Verlaine, il a une voix magnifique, et que tout l'ensemble marche formidablement bien. Qui me fait de l'effet.
C'était le groupe Television à l'instant sur Canal B avec la reprise du fameux Knocking on Heaven's Door de Bob Dylan dans la rediffusion du morceau de choix numéro 4 conçu et réalisé par Ronan Chaplin et diffusé pour la première fois dans l'émission de Boulevanie le 28 juillet 2023. Si vous voulez écouter d'ailleurs tous les épisodes de morceaux de choix, vous les retrouverez sur canalb.fr en cherchant dans les émissions de Boulevanie ou bien Crème de la Crème. De Boulevanie revient demain, diffusion du lundi au vendredi à 17h, rediffusion du mardi au samedi matin à 8h. Bon été sur Canal B. Ciao.